le projet redémarre. Et là, le projet, il s'appelle VideoLAN. Et dans VideoLAN, il y a plein de logiciels. C'est toute la solution de streaming. Donc, il y a le serveur, il y a le client, il y a une partie sur le réseau. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de techno. Et le client, qui s'appelle VideoLAN Client, c'est une sous-partie du projet, quoi. En février 2001, l'école autorise le truc à passer en open source après 2 ans de bataille avec les élèves. Et c'est à ce moment-là que la partie cliente, VideoLAN Client, à qui des gens vont rajouter le support des DVD et des DivX, commence à être populaire. Donc c'est les élèves qui gèrent, mais tu as des gens qui sont à l'extérieur de l'école, qui sont grosso modo, je crois, un Anglais et 2 Hollandais, qui portent VLC sous Windows et sous macOS. Et donc, ces mecs-là, en fait, ils lancent le projet. Et donc, à ce moment-là, il y a des gens qui utilisent VLC, mais plus pour la solution de streaming vidéo sur un réseau local, donc ça s'appelait VideoLAN, mais vraiment en tant que VideoLAN client, pour lire n'importe quel type de vidéo.
Et boum, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Baptiste Kempf, le président de VideoLAN et VideoLabs. Pour les pluristes, c'est Jean-Baptiste, c'est celui-là qui a défendu presque seul parfois et développé via une simple association VideoLAN le célèbre cône de travaux VLC. Moi, j'ai plein de souvenirs. Quand j'étais encore dans mon pays natal, au Cameroun, on utilisait ce logiciel pour écouter de la musique, pour regarder des films que l'on téléchargeait par-ci, par-là. Donc, il n'y avait pas encore YouTube, ou du moins, on n'avait pas une connexion Internet qui nous permettait d'accéder justement à ces logiciels online pour pouvoir check les vidéos. Donc, salut Jean-Baptiste, ça va?
Salut Guy, très bien et toi?
Super. Ben, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Je trouve que le logiciel VLC avec son logo iconique et des téléchargements qui se comptent pas en millions mais en milliards est une histoire méconnue du grand public. C'est pour cela que je tenais absolument à discuter de cela avec toi. Ce logiciel est toujours libre d'accès, gratuit si je ne me trompe pas. Si tu me corriges?
Non, c'est bon.
Yes. On va évidemment essayer de comprendre ton parcours d'ingénieur. On va parler de plein d'autres sujets aussi, notamment l'écosystème French Tech, si tu es OK avec ça. Mais avant, je te propose, si tu le veux bien, de te présenter succinctement, mon cher Jean-Baptiste.
Salut, donc moi je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 39 ans, je suis parisien, je suis un geek, ça fait des années que je développe des logiciels et surtout ça fait un peu plus de 15 ans que je gère et développe le logiciel VLC et plein d'autres logiciels. J'ai créé pas mal de startups dans la vidéo et puis voilà.
Yes. Donc, il y a très peu de logiciels avec un tel succès dans le monde comme VLC. Mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours avant VLC? Tu es originaire d'où? Tu es de Paris?
Moi, je suis parisien. J'ai vécu dans le sud-est de Paris, dans le 13e, pendant très longtemps. J'ai fait des études assez classiques, collège, lycée, puis une classe prépa pour entrer en grande école d'ingénieur en France. Je voulais faire de l'informatique assez tôt parce que j'ai commencé à programmer en sixième parce que j'avais mon prof de maths qui m'avait fait un peu de programmation lorsque j'étais à l'école française de Florence, parce que j'ai vécu un an à Florence en sixième. Et puis, j'étais beaucoup plus sur l'administration de machines et bidouillage informatique que programmation jusqu'à ma grande école. Et puis, au moment de passer les concours, j'ai eu pas mal d'écoles et notamment j'ai pris celle qui me paraissait la plus cool, qui était Centrale Paris. Et c'est à Centrale Paris qu'est né le logiciel VLC. Donc, à Centrale, j'ai géré le réseau étudiant. donc tout ce qui était administration, réseau et système. Et puis, petit à petit, bah, j'ai commencé à m'impliquer dans le projet VLC.
Yes. Est-ce quand tu rejoins ce projet, il est déjà existant ou tu fais partie des
Non,
cofondateurs
non,
du
en
projet?
fait, ouais, il n'y a pas vraiment de fondateur à VLC. Les gens, ils n'aiment pas trop ça. Ils aiment bien avoir une histoire très simple. Il n'y a personne qui s'est levé un matin en disant, ah, je vais faire un logiciel vidéo qui va tout remplacer tout le reste. C'est pas du tout comme ça. En fait, c'était un projet étudiant qui a été géré d'année en année et dont l'origine, elle date de 94-95. Puisqu'en fait, à l'École Centrale Paris, le réseau, il était géré par des étudiants. Et en fait, l'École Centrale Paris, c'est une école un peu bizarre où il y avait un campus qui était géré par des anciens élèves. Ce n'était pas un campus qui appartenait à l'État, mais c'est un campus qui appartenait aux anciens élèves. Et les élèves faisaient tout. La télé, la radio, la
Et comment c'est possible
cafétéria.
je crois que je comprends pas bien. Ça appartient aux anciens élèves, c'est-à-dire
Ouais, parce qu'en fait,
le mobilier, le truc.
ouais, exactement. En fait, l'école centrale, elle était à Gare de Lyon à un moment, et ils ont dû la déplacer parce qu'elle faisait pas assez d'ingénieurs après-guerre. Et c'est une des écoles, une grande école qui a pas beaucoup d'argent finalement. Et donc, ils ont dit, bah, il faut mettre un endroit où il y a de la place, et ils voulaient l'envoyer à Clermont-Ferrand. Et ça s'appelait l'école centrale, donc elle va à Clermont-Ferrand, hein, c'est pas con. Et les anciens élèves, en fait, ont acheté le terrain, ont fait une association qui s'appelle l'Association des anciens élèves. Et ils ont dit à l'État, va construire sur ce terrain ton école, et nous on construit le campus. Donc l'école, en fait, c'est un bâtiment public, mais c'était sur un territoire qui appartenait en fait à une association, quoi.
Ah ouais, c'est impressionnant ça. Ok.
Et donc résultat, tous les services aux élèves étaient sur le campus, gérés par des élèves. Donc, par exemple, l'allocation des chambres, c'était géré par les élèves, la cafétéria, la coopérative. Le bureau des arts, évidemment, le bureau des élèves. Et donc, il y avait une association des résidents qui faisait beaucoup de choses. Et dans les années 80, il y a un réseau informatique, Token Ring, donc des technos antidiluviennes. Mais à l'époque, bah, très peu de gens font du réseau informatique. Et ce réseau est géré par une association qui s'appelle VIA, comme Vivre l'informatique autrement. Et c'est cette. Et voilà, et c'est une association d'élèves qui gère ça. Et en fait, le réseau, il devient trop lent, et ils ont besoin notamment pour jouer aux jeux en ligne, en 94-95, le début de. C'est là qu'on voit les Doom, les Duke Nukem, etc. Ils veulent un nouveau réseau. Et l'école leur dit, écoutez, moi, je ne peux pas vous financer votre nouveau réseau, parce que bah, d'abord, vous allez l'utiliser pour jouer, mais surtout, c'est le campus, et le campus, ça ne nous appartient pas. Donc, allez voir ailleurs. Et les élèves, en fait, bah, ils vont voir ailleurs, et ils vont voir notamment IBM, 3Com, et Bouygues, parce que ça a été construit par Bouygues, ce campus, et ils se retrouvent avec les gens de TPS, TF1, je ne sais pas, qui leur dit le futur, c'est la vidéo sur satellite. Et c'est du numérique, le satellite, mais ça coûte très cher. Là, il y a 1500 étudiants, il faudrait acheter 1500 décodeurs satellites et 1500 antennes. Tu vois déjà dans les cités HLM, là, combien c'est moche d'avoir toutes ces antennes, et surtout, ça coûte très cher. Donc là, l'idée, c'était d'avoir seulement une antenne et de reprendre tous les flux et de les rediffuser sur un réseau local. Alors, ça paraît logique aujourd'hui. Là, on est en 95. Et les ordinateurs, c'est des Pentium 60 et des Pentium 90, des 486 DX33 à 66 MHz. Décoder de la vidéo en temps réel, c'était absolument inimaginable. Tu avais des cartes d'accélération spécifiques pour faire ça. Alors, c'est sûr, 10 ans après, il y a YouTube, on a eu un changement
Ouais,
important, mais
je
là,
crois que ma
c'est fou.
génération, ils ont pas connu ça.
Non, non, c'est vraiment. Et voilà. Et donc, ils lancent ce projet, 96, 97, et ça fonctionne. Et donc, ils ont une grosse antenne satellite, ils prennent le flux, et ils le renvoient. Ça crache. Mais bon, c'est pas grave. Et le projet, il aurait pu s'arrêter là. Les élèves ont leur nouveau réseau, qui s'appelle le Network 2000, et on aurait pu, mais peut-être qu'on aurait dû d'ailleurs s'arrêter là. Et finalement, on dit, bah ouais, mais en fait, on va faire mieux. Et en 98, fin 98, donc quasiment un an après, il y a des étudiants qui reprennent le projet en se disant, en fait, on va le rendre open source et on va le réutiliser parce qu'il y a d'autres gens qui ont besoin en fait d'avoir un réseau vidéo multiplateforme. Et donc, on va le faire comme ça. Et le projet redémarre. Et là, le projet, il s'appelle VideoLAN. Et dans VideoLAN, il y a plein de logiciels. C'est toute la solution de streaming. Donc, il y a le serveur, il y a le client, il y a une partie sur le réseau. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de techno. Et le client, qui s'appelle Videoland Client, c'est une sous-partie du projet, quoi. C'est pas du tout le focus principal.
C'est ce que nous, on utilise pour lire des vidéos en local sur nos ordinateurs.
En fait, en février 2001, l'école autorise le truc à passer en open source après 2 ans de bataille avec les élèves. Et c'est à ce moment-là que la partie cliente, Videoland Client, à qui des gens vont rajouter le support des DVD et des DivX, commence à être populaire. Et notamment, il y a des élèves, donc c'est les élèves qui gèrent, mais tu as des gens qui sont à l'extérieur de l'école, qui sont grosso modo, je crois, un Anglais et 2 Hollandais, qui portent VLC sous Windows et sous macOS. Et donc, ces mecs-là, en fait, ils lancent le projet. Et donc, à ce moment-là, il y a des gens qui utilisent VLC, mais plus pour la solution de streaming vidéo sur un réseau local, donc ça s'appelait Videoland, mais vraiment en tant que Videoland client, pour lire n'importe quel type de vidéo. Et à ce moment-là, Videoland client se renomme et s'appelle VLC. Donc cette histoire, c'est une histoire longue et compliquée, parce que c'est une histoire qui commence en fait dans les années 80 avec le premier réseau Evia, et puis le deuxième réseau où on trouve une justification en disant on va mettre de la vidéo parce que ce sera trop pour le réseau, ça légitimera le fait qu'il faut racheter un nouveau réseau, et que ce truc relance un projet qui s'appelle Videoland, qui ne devient open source qu'au bout de 2 ans quasiment, et dont un des sous-projets c'est Videoland Client qui va devenir VLC. Donc il n'y a jamais eu un mec qui s'est fait « Waouh, je vais faire VLC, ça va être génial. » C'est en fait c'est une suite de trucs qui viennent. Et d'ailleurs, certaines des raisons pour lesquelles VLC a été populaire, c'était pas exprès, quoi. C'était pas fait pour ça. C'est une conséquence de cette histoire un peu recommandesque.
Yes. À chaque étape, comment est-ce que ça se finance? Parce que forcément, c'est...
Ça se finance pas, c'est facile. C'est que des bénévoles, il n'y a pas d'argent. Facile.
Ouais, mais comment est-ce qu'on mutualise autant de personnes, parce que ça demande quand même assez de ressources? Comment est-ce que sans argent, on réussit à mutualiser
Bah non, parce qu'en fait, c'est tout ce qui est open source. C'est des communautés qui se mettent ensemble. T'en avais beaucoup en 80, fin des années 90, début des années 2000. Les meilleurs développeurs, ils allaient dans l'open source et ils bossaient sur leur temps libre, le soir et le week-end. Et en fait, tu as un noyau dur de 2-3 personnes qui montent un projet, et tu as des gens qui arrivent et qui rajoutent des fonctionnalités. Et VLC rentre typiquement là-dedans. Et en plus, là, tu avais des étudiants qui étaient en école d'ingé, qui avaient encore pas mal de temps pour coder. Wow. Donc, tu n'as pas besoin de beaucoup de ressources. En tout cas, pour démarrer le projet.
Ça, c'est impressionnant. Et pour ce qui concerne le logo, t'as une idée, comment est-ce que...
Ce logo, c'est typiquement une connerie d'étudiants sur un campus qui se sont tapés une barre et qui ont rigolé sur un cône, et puis qui l'ont mis dans un logiciel qui à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui l'utilisait. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement une icône que tu ne peux pas le changer.
Ah ouais, évidemment, c'est pas un truc qui a été théorisé, parce que en fait c'est difficile de trouver la cohérence entre pourquoi ce
gars et pourquoi. Il y en a aucune, ça n'a aucun sens. Mais en même temps, c'est génial. Parce qu'en fait, c'est tellement différent que tu le remarques. Et donc, mais personne s'est dit, oh, je vais faire un cône, ça va être pour dire que c'est en chantier, les gens vont le reconnaître. C'est un logiciel fait par des étudiants qui se sont tapés une barre. Moi, quand je suis arrivé, il y avait une collection de cônes. Moi, j'arrive en 2003 à Centrale, donc 2 ans après que ce soit passé en open source. Mais là, il y a déjà un culte du cône. Ils se sont tapés des craquages et c'est assez rigolo. Il y avait des collections de cônes.
Toi, tu avais déjà entendu parler du projet avant Centrale ou
Ouais, en fait, c'est une des raisons pour laquelle j'ai rejoint Centrale, c'est que je savais que. J'avais rencontré un mec qui s'appelait Mathieu Fréchon dans un stage de voile en haute mer que j'avais fait un été où j'étais bénévole, c'était pour mon BAFA je crois, et le mec en fait était à Centrale et il me dit oh, Centrale c'est super cool, il y a surtout une super organisation qui fait du réseau et ils sont super sympas, ils font du réseau et ils ont un programme VLC. Et moi, en fait, je voulais faire de l'informatique. Mmh. Et je voulais aller à une école qui s'appelle EPITA et je n'y avais pas pu parce que ça coûtait très cher. Alors que
ouais, une école privée.
Exactement, alors que la classe prépa, c'était gratuit. Et donc voilà, donc c'est une des raisons pour laquelle. Donc je savais un petit peu, mais le logiciel, en fait, c'était à l'époque où tu sais, t'en avais des milliards. Tu avais un lecteur, moi j'avais. Tu téléchargeais plein d'outils. Moi j'ai toujours été passionné de films. Donc tu vois, tu téléchargeais des codecs PAC, des compresseurs, je faisais des DivX. Voilà. Donc, toujours dans cette mouvance-là, mais VLC, c'était pas à l'époque très connu.
Yes.
VLC commence à décoller vraiment ouais, 2004, quoi.
Ok. Dans quel contexte est-ce que toi tu rejoins justement cette non, il n'y a pas d'association à l'époque, c'était pas, il n'y avait
En
pas
fait, c'est
d'association.
un club. C'est un club qui était donc une sous-association de l'association Videolan, via Central Réseau, de l'association des étudiants. Moi,
Ok.
j'étais vice-président de cet asso
Il y avait un filtre,
en
est-ce que c'est
2003.
quelque chose que tu pouvais rejoindre comme ça, ou il y avait...
Ouais, c'était des filtres techniques principalement.
D'accord. Et toi, dans quel contexte que tu rejoins ça? C'est quoi
Moi, je sais pas, tu
l'existant?
sais, au début, tu arrives, tu rejoins plein d'associations, il y a des gens plus ou moins sympas. Puis ben, tu continues ou tu continues pas. Et moi, j'étais dans l'association du réseau. Et voilà, et je me suis fait beaucoup de diffusion vidéo sur réseau et puis beaucoup de gestion du réseau.
Tu étais aussi contributeur, forcément.
Et ouais, tu étais bénévole dans ces assos, ouais.
Yes. Et est-ce que tu peux alors nous donner un petit peu comment la bascule se fait entre 2003 lorsque tu rejoins Videolan et en 2006 quand ça commence à prendre un petit peu la sauce et que ça change, que ça se transforme complètement en... En 2006, si je me trompe pas, que ça se
Non, c'est plutôt
transforme en...
2008 en fait. En fait, donc moi j'arrive à Centrale 2003, donc je fais partie de l'association du réseau, les anciens du réseau font du VLC. Et moi je contribue plus au projet Videolan que vraiment sur le logiciel VLC. Donc pas mal de choses autour du réseau et de la solution de streaming en local. Et puis ça décolle un peu, ça commence à décoller un petit peu, notamment en 2005. Chaque release commence à prendre vraiment beaucoup de bandes passantes en fait du réseau, donc tu vois c'est un vrai sujet à ce moment-là. Et puis ben moi je pars en stage en 2006 et dans un de mes stages j'ai vraiment pas grand-chose à faire et donc c'est là que je commence à vraiment passer du temps à contribuer sur VLC. Donc c'est fin 2006 et à la fin 2006 en fait il y a quasiment plus personne sur le projet a failli mourir, en particulier parce qu'en fait ben les anciens ils étaient partis. Tu sais, tu as eu une génération 98, 99, 99, 2000, etc. Et puis ben, vers 2003-2004, il y a un peu un changement d'organisation dans l'école et il y a moins d'utilisateurs, enfin moins de développeurs qui sont motivés. Et surtout, les trucs les plus simples ont été faits, donc maintenant, chaque modification, elle va être de plus en plus difficile à faire. Donc c'est ça qui prend beaucoup de temps. Et donc VLC, et donc en février 2007, ouais, il y a vraiment plus grand monde. Donc là, à ce moment-là, moi, je passe du temps à coder. Et puis, à partir de 2007-2008, moi, je bosse un an aux États-Unis. Et quand je reviens, j'essaie de remonter une structure. Donc, je crée une association. C'est là où je crée l'association Videolan. Et je transfère un peu tous les assets de l'école et du réseau de Centrale, de Via Centrale Réseau, dans l'association Videolan. Les noms de domaine,
Ça
les
se
URL.
fait facilement, il n'y a pas, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça reste la propriété de l'école, non?
Bah non, ça se passe assez bien parce que l'école a considéré que c'était open source, donc il n'y a pas grand-chose. Les étudiants ont gardé leur propriété intellectuelle, c'est un projet libre. Et j'ai surtout en 2006, il y a Free qui se met à héberger nos serveurs que je vais d'ailleurs installer en 2005 dans un des data centers de Free. Et donc voilà, c'est comme ça que ça.
Bénévolement
Ouais,
ou...
bien sûr. Ouais. Attends, c'est pas. C'est pas monstrueux, hein. C'est 2 heures de serveur, hein. On n'a pas une infrastructure de malade. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'on transvase, et puis en 2008, bah, donc, est créée l'association. Et là, 2000, ouais, je continue à aller trouver des nouveaux développeurs, proposer des projets, des stages étudiants, voilà, tout ce genre de trucs pour un peu motiver les gens à se mettre à contribuer sur l'LC.
Mais au niveau de l'association, est-ce que les gens qui rejoignent, ils bossent toujours bénévolement ou là, tu es obligé d'aller
Bonjour,
chercher
l'asso, elle n'a
du
pas
cash?
d'argent. Moi, non, en fait, tu ne gagnes pas d'argent avec VLC. Le VLC, il n'est pas payant, donc tu n'as rien de spécifique.
Ouais, mais comment est-ce que tu le pitches ça? C'est moi, c'est un univers qui m'a toujours un petit peu impressionné, l'écosystème free avec ses open source. D'où est-ce que les gens y trouvent cette motivation de taffer parce qu'ils taffent vraiment à fond, mais gratuitement, quoi.
Bah, il y a des gens le soir, ils jouent à World of Warcraft. Bon, bah, il y a des gens le soir, ils codent.
Ok.
C'est pas bien différent, hein.
D'accord. ok, donc tu lances l'association, tu trouves de nouvelles personnes pour
Ouais, donc là,
relancer.
il y a un retour de quelques anciens, et puis je fais pas mal de recrutement, de nouvelles têtes, quoi. Et on
Mais là,
structure un
tu es
peu
tout
l'association,
seul?
le projet.
L'association, c'est toi le fondateur ou vous êtes plusieurs cofondateurs
Ouais.
de l'association?
Non, c'est moi et en théorie, ouais, c'est moi qui lance l'idée. J'ai un mec qui devait être le trésorier et au bout de 2 mois, en fait, il fait rien, il s'arrête.
Ouais,
Donc
donc
je me suis
tu es quasi seul pour lancer tout ça, réorganiser, trouver les nouvelles ressources et puis les luncher
Et ça
sur
prend
chaque
beaucoup de
projet.
temps, parce qu'en plus, moi, je code, notamment toute la partie Windows, qui est donc le plus gros partie de VLC, et la partie graphique de VLC. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais ouais, donc je gère les histoires légales, parce qu'on a quand même pas mal d'histoires légales, de noms de domaine, de serveurs, de plein de gens, en fait, pour vraiment aider le projet, quoi.
Yes.
Toute la partie, refaire le site web, etc. Donc je passe beaucoup de temps là-dessus.
Mais en parallèle, tu bosses, non? En parallèle, j'ai vu que tu es
Ouais,
passé
en
par...
parallèle, j'ai un vrai métier, ouais. Donc, d'abord, je suis consultant en 2008 jusqu'à 2009. En 2009, je rejoins une start-up qui s'appelait Fairplay Interactive pendant à peu près 2 ans et demi. Donc, je fais le CTO. Je fais ça la journée et je code sur VLC le soir et le week-end et les vacances. Et puis, en fait, VLC, la boîte, elle va pas bien et VLC me prend de plus en plus de temps. Donc, en fait, quand il n'y a vraiment plus d'argent, j'abandonne la boîte. Il n'y avait plus de boulot.
L'association, tu veux dire.
Non,
Ah là, non,
non.
tu parles de la startup pour laquelle tu bossais.
Et donc, je décide de monter une start-up autour de VLC où on va faire que du VLC.
Ouais, mais c'est quoi la proposition de valeur de la
C'est des
startup
services
puisque là.
autour. Pour le moment, en fait, tu vois, je commençais déjà à avoir plein de clients qui me demandaient des modifications de VLC, du consulting, plein de genres de choses comme ça autour de la vidéo.
Ok. Et c'est ça que tu as mutualisé au sein de la startup que tu as créée à côté. Là, on parle de Video Lab.
Exactement. Donc là, c'est fin 2012, enfin début 2013, quoi. Donc c'est ouais, c'est 4 ans, 4 ans, 4 ans et demi après l'assaut.
Ok. Et les clients, ils viennent principalement des utilisateurs de VLC ou.
Ouais, des corporate, ouais, des grosses boîtes qui ont besoin de soit de VLC spécifique, soit d'intégrer une vidéo, une techno vidéo dans leur SDK, dans leur application, dans.
C'est toujours basé
Et leur
sur
fichier
VLC ou ce
d'AMF.
sont des projets
Ouais,
vraiment marque
ouais,
blanche quoi.
80%. 80%, c'est basé sur le moteur de VLC. Ouais. Et là, avec ces ressources, on est capable de ramener des gens sur. Et c'est là où on se met à porter VLC sur Android et sur iOS.
Ouais, mais du coup, ça veut dire quelque part, c'est ta boîte, ta startup qui finance en partie le
Si
pôle de
tu veux, ouais.
l'association.
Ouais, mais c'est pas pareil, c'est qu'en fait, c'est ma boîte qui est un des contributeurs au projet. Mais le distributeur, c'est toujours Videoland.
Ok, mais du point de vue financier, c'est parce que ça reste quand même une ressource, ça reste quand même des ressources internes de ta startup qui a objectif quelque part quand même de faire de l'argent que tu déploies. Est-ce que ça te met pas en difficulté quelque part ou du moins dans une situation compromettante vu que là tu es complètement à ton propre compte, tu n'as plus une autre boîte à côté où tu bosses pour pouvoir assurer ton lifestyle?
Non, non, c'est pas trop gênant. Parce que les clients, en fait, souvent, ils ont besoin d'un truc qu'on. Enfin, ça, c'est plutôt des accélérateurs de roadmap, quoi. Des gens qui veulent faire un truc, que de toute façon, on aurait fait. Donc, la plupart du code qui est produit dans la boîte, il est reversé à l'association. Donc, c'est win-win pour tout le monde.
Ok. Et dans cette boîte, tu es tout seul ou tu as des associés?
D'abord, c'est moi qui l'ai créé, puis j'ai deux de mes. Des mes gars qui, enfin deux des gars qui me rejoignent, et puis après on va passer vers 4-5, puis après vers 8 ou 9, et puis après on grossit quoi tous les ans un peu régulièrement. jusqu'à atteindre
Là, c'est juste des
10-12 ans.
collaborateurs ou ils ont des parts dans la boîte?
Non, non, c'est des développeurs. Hein. En fait, la boîte, les parts, ça vaut pas grand-chose. Tu n'as pas de dividende, en fait. Donc,
Ok.
ça sert pas à grand-chose d'avoir des parts de la boîte.
Ok. Donc aujourd'hui, tu es toujours président de l'association et de ta boîte.
Ouais.
Et c'est
De mes
quoi,
boîtes.
ok, les deux boîtes. Donc aujourd'hui, c'est quoi l'association? C'est quoi les actifs actuels aujourd'hui? Et c'est vous bossez sur quoi actuellement? Vous bossez encore sur
L'association,
VLC?
elle continue à développer VLC. Donc VLC, il y a des updates en permanence sur Android, sur iOS, sur Windows. Tu sais, t'as toujours des nouvelles versions de Windows, des nouvelles versions de Mac, nouvelles versions de. En fait, tu as énormément de maintenance et puis il y a toujours des nouveaux trucs à faire. Il y a toujours des résolutions plus grandes, des nouveaux types de vidéos. Donc en fait, il y a un travail important sur VLC, ouais.
Yes. À côté, tu as bossé sur. En tout cas, j'ai vu que tu as launché, tu étais CTO pour Shadow. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est et cette aventure de quelques mois, comment est-ce qu'elle s'est terminée? Surtout le
Alors,
contexte, dans quel contexte est-ce que tu rejoins Shadow?
avant Shadow, en fait, j'ai lancé deux autres startups qui font la même chose que ce que j'ai fait sur VLC et sur FFmpeg, donc, qui est donc une structure à côté autour d'un autre projet open source qui s'appelle FFmpeg. Donc voilà, bon. À chaque fois, j'ai une asso et une boîte qui est là pour accélérer le travail de l'asso et qui a des vrais clients. Et c'est vrai que il y a 2 ans, en fait, on m'a contacté pour être CTO de Shadow, qui était donc un PC Windows dans le cloud. Un peu orienté gamer, pour faire du cloud gaming. Ils n'arrivaient pas vraiment à gérer leur base techno, qui était très compliquée. C'est grosso modo, tu mets un gros ordinateur dans un data center, et puis tu fais le rendu, et tu encodes la vidéo du rendu du bureau, et tu l'envoies en stream. Voilà, donc c'est comme ça en fait que les problématiques elles étaient très proches de celles de VLC. Parce que c'est de la vidéo, c'est cross-platform, tu dois être sur Android, sur iOS, sur Windows, sur Mac. Et voilà. Et donc ils me proposent de venir. Moi j'étais habitué à gérer des équipes de 20-25 personnes. Et donc ils me demandent de venir pour gérer pour avancer, parce que la boîte, elle avance plus, quoi. Et
Okay.
notamment techniquement. C'est vraiment compliqué. Donc j'arrive pour un peu réactiver et redynamiser cette boîte. Mais en fait, pendant que le reste de la direction s'occupait de lever de l'argent.
Ok. La boîte, elle était possédée par qui? C'était un groupe de personnes, une boîte.
Ouais, un groupe de personnes et des investisseurs classiques. Ils avaient levé beaucoup d'argent, 120 millions.
Ah ouais. Ok.
Voilà. Et ils ne réussissent pas à faire la levée. Et donc, la boîte. Elle part en redressement judiciaire. Et moi, en fait, moi, je me fais assez bien voir de la communauté parce que En fait, la boîte, en interne, c'était infernal. Les gens, ils se battaient pour rien. Il y avait des gens très, très bons, des développeurs très, très bons, des gens très motivés. Mais au-dessus, il y avait du management assez mou, assez mauvais. Et donc, qui aimait bien siloter et empêcher les gens de se parler dans la boîte. C'était très, 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 très compliqué.
Combien de personnes à peu près?
Ouais, 120 quand j'ai join, 120.
Ah ouais.
Et voilà. Donc moi, je m'occupe à refaire la tech. Et notamment, il y a plein de produits qui shippent, quoi. Le double écran, la version Chrome, la version Mac ARM. Alors, plein de choses qui avaient été demandées par la communauté depuis très longtemps. Et les devs, ils avaient quasiment tout fini, mais tu vois, il fallait un peu juste organiser et prendre des décisions. Et faire des choix, ce que j'ai fait. Et une fois que tu arrives à la fin. Au bout de 4-5 mois, donc il y a plein de nouvelles features qui arrivent. Les gens sont assez contents, mais il n'y a plus d'argent et donc ça part en redressement judiciaire et donc au tribunal de commerce.
Et là, comment est-ce que ça se passe? La boîte, elle va être dépecée, elle va être.
En fait, il faut retrouver un acheteur. Et donc là, il y a Octave Klaba d'OVH qui connaissait bien la boîte, commence à se positionner. Mais tout ce système-là de rachat de boîte, c'est un truc un peu opaque. Et un petit peu, tu ne sais pas qui va faire une offre.
C'est important donc, de savoir en fait... qui va faire une offre, puisque toute la
façon, non, mais en fait...
tu veux vendre la boîte. Ou
Non, c'est important parce que tu veux peut-être garder toute l'équipe, quoi. Et donc, tu as intérêt à ce qu'il y ait une petite bataille entre les repreneurs. Si tu as un repreneur, il va prendre ce qu'il veut de la boîte et il sera tout seul et c'est tout. En fait, c'est un truc un peu à deux tours. C'est un peu un poker. C'est-à-dire que tu dois payer pour voir.
Un peu comme donc, la clause shotgun.
Voilà. Et donc, en fait, tu... Et donc, moi, je vois qu'il y a une partie de la direction qui parle beaucoup à Octave Klaba, mais à personne d'autre. Donc, en fait, il faut que le maître... Enfin, qu'il y ait un peu d'émulation. Donc, nous, on décide avec deux autres employés et bientôt trois autres employés de lever des fonds pour essayer de racheter la boîte. Et donc, on lève 30 millions en 3 semaines. Et c'est très, très compliqué de lever des fonds comme ça.
Mais 30 millions, comment est-ce que vous réussissez à lever 30 millions pour une boîte qui était supposée partir en redressement
Ouais, mais t'as beaucoup d'assets, en fait. C'est pas très compliqué, t'as beaucoup de matos.
Et qui vous fait confiance à ce niveau-là pour la lever, si on peut
C'est des investisseurs.
Privés.
Ouais.
Ok.
Et puis, donc on fait cette offre, et puis en fait, après le premier tour, en fait, on voit Xavier Niel à travers Jacques-Antoine Grandjean de vente privée, et donc on décide de faire une offre ensemble. Et donc on joint nos forces avec notre équipe, avec Xavier Niel et le groupe Iliad.
C'est impressionnant. Pourquoi est-ce que ces gros s'intéressent à cette boîte, à cette techno? Est-ce qu'il y avait quelque chose, un enjeu stratégique par rapport à la techno qui
était... C'est un vrai sujet. C'est un sujet d'avenir. C'est peut-être probablement pas Shadow qui avait le bon modèle, mais c'est un vrai sujet de... Tu vois, tu es de plus en plus avec des téléphones, avec des ordi de plus en plus légers, et tu veux faire tourner des trucs de plus en plus lourds. Et à un moment, tu peux plus, quoi. Donc, te dire que tu fais un rendu d'un jeu vidéo compliqué, d'un métaverse, et que tu streams le résultat, si le réseau est rapide, c'est un vrai... C'est pas con, quoi.
Yes.
Donc voilà, donc c'est intéressant. Et puis, il y a pas mal d'abonnés. Il y a 100 000 abonnés, donc... Voilà, donc c'est intéressant de faire ça.
Yes. Donc là, tu décides de te mettre avec...
Et donc, on perd. Voilà, et puis, on va jusqu'au bout, et puis on perd, parce que nous, on met 4 millions d'euros, et puis l'autre équipe, ils ont mis 5 millions,
voilà. Tu peux pas surenchérir, c'est une fois que tu fais ta propagande.
Non, c'est le deuxième, en fait, tu préenchéris, puis le deuxième fois, voilà, donc... Comme l'administrateur, en fait, lui, il récupère de l'argent en pourcentage du prix de vente, il pousse évidemment par l'endroit où il y a le plus d'argent, ce qui est logique. Mmh. Et après, tu peux plus rien faire. Donc voilà,
mais
donc ça,
c'est toujours une histoire d'argent. Ça peut être un prix plus bas, mais peut-être le projet, tu le trouves intéressant.
Normalement, nous, on avait un meilleur projet et puis on était soutenus par les employés qui étaient là pour soutenir les employés, pour lancer le projet. Donc en théorie, non, ça aurait dû...
Que l'autre, il peut payer plus cher et il décide de virer tout le monde, quelque part. C'est un peu chaud, quoi.
Et oui, mais justement, le fait que... D'ailleurs, la première offre qu'avait fait Octave Klaba, il récupérait que 70 personnes. Mais comme nous, on était en face, il a dû reprendre quasiment toute la boîte. Donc, tu vois, en fait, ça améliore les offres. Les prix, ils allaient les mettre 300 000 euros. Là, ils ont dû mettre 5 millions. Donc, tu vois, c'est quand même important qu'il y ait de la compétition pour améliorer les offres.
OK.
Donc l'histoire Shadow, ça dure à peu près une année. Entre le moment où j'ai join en août et jusqu'au moment où ça s'est fait fin avril, mai, les histoires après pour quitter la boîte, etc.
T'as pas voulu rester lorsqu'il a repris
Non, il voulait pas de moi. Il était vexé que j'ai osé faire une offre contre lui, donc il a pris tout le monde dans la boîte sauf moi. Ça s'appelle être un gamin, tu sais.
J'imagine que vous n'êtes pas les meilleurs potes aujourd'hui, quoi.
Je le connais même pas, ce type.
T'as pas eu un échange directement avec lui, quoi, pendant la négociation?
Ouais, si, on a parlé, mais moi, je trouvais que ce qu'il voulait faire de la boîte, c'était pas incroyable. Okay. Et surtout, je voulais pas qu'il y ait qu'une seule personne qui rachète la boîte. Et puis, résultat, ce qu'ils en ont fait, c'est pas incroyable. Hein. Là, on est quasiment plus d'un an après, ils ont toujours... Parce qu'un des gros avantages, disons, d'OVH, c'était d'avoir plein de matériel. On est toujours avec le même matériel. Ils ont perdu un bon tiers des clients. Ils dépensent des fortunes en marketing. Ils ne réussissent pas.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu as un peu suivi la suite? Ils ont killé le projet ou ils l'ont intégré complètement?
Non, ils continuent.
Donc, la marque, elle existe. La marque, elle existe toujours, quoi.
Si, ils ont fait un rebranding, ouais. Ils ont travaillé sur le rebranding. Mais sinon, il y a les mêmes fonctionnalités. Il n'y a rien de nouveau, quoi. Enfin, ils font de la com sur des trucs que nous, on a développés. Waouh, regarde, on a mis le double écran en production. Enfin, ça fait 6 mois que c'était là. Donc, ouais, je ne sais pas très bien. Et puis, les gens sont là de se faire chier, ouais. Ce qui est normal.
Toi, qu'est-ce que tu en tires de cette mini-aventure? Ça n'a duré qu'un an.
Ouais, c'était 13 ans. Alors, c'était un an très intense quand même. Bah, écoute, moi, j'ai trouvé ça très cool. J'ai appris pas mal. J'y avais eu tout ce bordel qui était le redressement de le rachat de société. Donc ça, c'est un vrai sujet intéressant. Et puis sur Shadow, gérer des équipes qui sont un peu plus grandes et un peu plus compliquées à gérer au niveau management que ce que je faisais avant.
Yes. Tu penses qu'il y a de... Il y a des... Est-ce que tu aurais des astuces à partager pour une boîte qui est comme ça au bord du redressement? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qu'on peut rapidement activer pour éventuellement peut-être éviter?
Il n'y a pas de tips en fait, ça dépend trop du business, quoi. Donc là, régulièrement, j'ai des startups françaises qui vont pas bien, qui m'appellent justement parce qu'elles ont vu ce que j'ai fait avec Shadow. Mais il n'y a pas de tips qui marchent partout. Il y a quelques astuces et surtout bien comprendre le process judiciaire qui est complètement opaque.
Pourquoi justement c'est opaque? Pourquoi il n'y a pas une transparence? Parce que l'idée, la justice, elle a intérêt à ce que la boîte, qu'elle revienne, je sais pas, qu'elle reprenne, qu'elle se relance.
Bah oui, mais donc ça marche bien. Ça suffit pour eux. Toutes les boîtes, elles se font racheter. Non, ils sont ravis.
Ouais, mais des fois, au détriment des employés, au détriment de... Surtout pour... Il y a des boîtes même qui sont spécialisées qui attendent ce genre d'occasion justement pour faire du
business. Ouais, mais en fait, ils se justifient en disant si on ne fait rien, la boîte, on va perdre l'ensemble des boulots. Donc, il vaut mieux récupérer la moitié des emplois que rien. Okay. Ce qui peut se comprendre. Mais c'est très difficile de retourner ce qu'on appelle du retournement d'entreprise. C'est assez difficile. Et surtout, dans la tech, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup dans l'industriel, mais en tech, il n'y en a pas beaucoup.
Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi tes projets? Tu bosses sur quoi? Sachant que tu es toujours, comme tu l'as dit précédemment, président de VLC, de la sauce et de ta boîte.
J'ai toujours les assos Videolan, FFmpeg et puis quelques boîtes autour. Hein. Il y en a 3-4. Qui me prend une partie, donc c'est toujours la partie open source vidéo. En ce moment, je bosse un peu dans des grosses boîtes et des petites boîtes. Soit je fais de l'audit, je fais pas mal d'audit de start-up, je fais pas mal d'audit technique, et en ce moment, tu vois, j'ai une longue mission chez Vente Privée, où je définis un peu toute la partie architecture, c'est quoi la vision tech de la boîte, où est-ce qu'ils vont aller. Voilà, donc un peu de conseils, et puis je suis en train de lancer des nouveaux projets. Autour de la vidéo, un truc un peu autour du Web3 et un autour des technologies comme Shadow. Donc je lance un peu des projets et puis
tu nous en parles un petit peu pour
des nouveaux projets lances, non, c'est
pour le Web3. Est-ce que c'est déjà qu'est-ce que tu en penses de toi qui quand même a débuté sur Internet, qui a vécu quand même les différentes crises, que ce soit dans les années 2000. Quel regard est-ce que toi, tu as sur cette tendance du Web3, peut-être avant de nous dire un peu plus sur ce que tu lances?
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a plein de trucs intéressants, il y a plein de trucs sur le distribué, puis il y a plein de charlatans, donc un peu comme à chaque fois, donc c'est des cycles. C'est intéressant, je pense qu'il y a des vraies utilisations intelligentes d'une blockchain, c'est-à-dire d'un réseau de partage distribué dans lequel on ne peut faire confiance à personne, mais on fait confiance à tout le monde. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je pense que, évidemment, 80% de ce qu'on voit, c'est vraiment de la merde.
Et pour la vidéo, qu'est-ce que tu...
Il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet au-delà de tout ce qui était blockchain. Il y a tout un vrai sujet sur les mondes virtuels. Tu appelles ça Metaverse, Second Life, Minecraft, ou je ne sais pas quoi. Et donc là, il y a un vrai sujet, notamment de la vidéo. Et de la vidéo, comment est-ce qu'on va l'intégrer sur... Donc évidemment, aujourd'hui, il y a une dimension quasi très, très financière autour de tout ça et de spéculation, qui est la partie désagréable. Et puis, tu as plein de choses plus ou moins intelligentes qui se développent. Donc, il y a des sujets vidéo là-dessus.
J'imagine que c'est là où toi tu te situes avec peut-être ton nouveau
Ouais, moi je fais
projet.
quasiment que des projets autour de la vidéo. À part ce que je fais là en ce moment dans l'audit de start-up et chez banque privée, je fais quasiment que des sujets vidéo.
Et tu me donnes un ordre d'idée. Est-ce que l'idée c'est de lancer à chaque fois des projets en marque blanche pour des entreprises ou alors c'est d'avoir un produit qui s'adapte
Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse pour moi.
Ah, c'est pas
Moi,
tu communiques
je.
pas publiquement dessus.
Non, mais surtout, ça dépend. Tu vois, ça dépend des projets. Ça dépend de ce que je fais.
Ok.
Moi, je veux apprendre des nouveaux trucs. Tu vois, j'ai fait tout ce qui était server side avec FFmpeg, tout ce qui est client avec VLC. J'ai fait pas mal de trucs sur le réseau. J'ai fait pas mal de trucs sur tout ce qui était 8K. On a fait des versions VLC pour la VR. On a fait des trucs en AR. On a fait des plugins VLC pour Unity, pour Unreal, dans des moteurs de jeux vidéo. On a écrit un mini moteur de jeux vidéo. On a fait des trucs sur la recommandation vidéo, on a développé un Shazam pour la vidéo, j'ai fait des outils autour du Web3, des NFT, j'ai fait des trucs à très basse latence, j'ai fait des trucs sur le Shadow qui est donc de la vidéo d'un desktop à distance, j'ai fait du contrôle de drone à distance. Enfin, tu vois, tu as plein de sujets intéressants autour de ça.
Mais toi, qu'est-ce qui te drive à titre perso? Est-ce que c'est. Parce que
Bah, moi, j'aime
si on
bien
prend juste le cas
l'informatique.
de VLC, on parle quand même des milliards de téléchargements. Clairement, si c'était une entreprise, une start-up, c'est que
Ouais,
c'est
mais il
un
n'y aurait pas
gros
des milliards
monstre,
de
quoi.
téléchargements.
Ça serait un
Ouais, mais
gros
justement.
monstre.
Ouais, mais tu vois, en fait, VLC, ça a été populaire parce que c'était gratuit. Tu n'auras jamais payé pour un lecteur vidéo. D'ailleurs, tu payes pas pour un lecteur vidéo, tu payes pour Netflix, tu payes pour Disney+. Donc, il n'y aurait pas les millions de téléchargements, les milliards de téléchargements, si c'était payant. Donc tu vois, en fait, c'est facile de refaire le monde, mais tu peux pas toujours.
Mais toi, ça te titille pas un peu d'aller comme ça chercher, mais
Si,
vraiment
si, bah
businessment parlant, d'aller chercher un truc?
c'est pour ça que j'ai lancé plein d'autres projets, mais tu vois, j'ai plein de projets qui marchent et il y en a qui ne marchent pas, quoi.
Yes. Ok, je crois qu'on a fait un petit peu de tout. Il y a des questions que j'ai oublié de te poser.
J'en sais rien. C'est toi qu'il faut demander.
Dis-moi, comment aujourd'hui, toi, est-ce que tu progresses justement parce que tu t'as dit, tu as envie d'apprendre plein de choses encore, surtout dans cet univers Web3, de lancer de nouveaux projets. Comment est-ce que tu rentres justement dans ces nouveaux univers-là? Comment tu apprends? Comment est-ce que tu
Alors, le
grandis?
premier truc, c'est que moi, je me force à ne pas avoir d'a priori. C'est-à-dire que tu vois, tu dépasses 30, 35 ans et après, tous les nouveaux trucs, c'est de la merde. Et toi, tu sais, les vieux cons, quoi. Tu passes de mec enthousiaste à vieux con.
T'as
Donc, moi,
quel âge
je
c'est
travaille
pas un distrait?
39. Donc,
Ok.
moi, je me force à. Je teste énormément de produits. Mais genre, vraiment beaucoup. Mais je teste. Évidemment, tous les trucs de réseaux sociaux, toutes les apps de dating, alors que j'en ai pas besoin, hein, mais juste pour apprendre. Je suis marié depuis des années et des années, mais pour
Boulot,
apprendre les
boulot,
nouvelles
professionnel.
technos. Ah ouais, mais la veille techno, c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet pour moi. Donc je prends, on passe beaucoup de temps là-dessus. Et toi, par exemple, moi j'ai TikTok, j'ai utilisé ça hyper tôt. J'utilise plus. Mais tu vois, j'avais testé le produit très tôt. Moi, j'ai quasiment. Enfin, tu vois, c'est simple. Hein, maintenant, j'ai plus aucune app de réseaux sociaux. J'ai que les sites web de Facebook et de LinkedIn et de Twitter. Et j'y vais assez peu, finalement, maintenant. J'ai très peu d'apps. Toutes ces apps, tu vois, je les teste et puis je les dégage. Mais au moins, pour savoir ce que c'est. Et donc, tu vois, pour moi, c'est important de tester des nouveaux trucs, essayer des nouveaux trucs. Puis bah ouais, il y a plein de projets que je lance, bah ça marche pas. C'est la vie, quoi, mais on apprend des nouveaux projets.
Yes. Tu investis en start-up aussi?
J'ai pas d'argent, tu sais. Parce que justement, comme tu l'as bien dit, j'ai pas vendu VLC pour 100 millions, quoi.
C'est quoi les parties les plus difficiles de ton job, de ta vie? C'est quoi le plus dur?
En fait, moi, mon métier, c'est de prendre des décisions pour tout le monde. Et il y a des fois, par un qui en prend pour moi, tu vois. En fait, tout le monde m'appelle quand il y a un problème et je suis censé toujours régler le problème sur toutes les boîtes ou VP truc comme ça. Et tu vois, et je suis toujours le goulot des tremblements. Donc il y a des fois, je dis, et moi, comment je fais, quoi? Comment je gère, moi? Donc ça, c'est, je pense, c'est la partie un peu. C'est que t'es souvent quand même un peu seul, quoi.
Et t'as des débuts de solutions pour ça, je sais pas, des coachs ou...
Ouais, mais je sais pas, mais tu vois, moi j'ai monté donc Videolabs, maintenant c'est une, tu vois, toutes les boîtes que j'ai montées, bah, je sais pas, c'est des petites boîtes, elles font 3-4 millions de chiffre d'affaires, ouais, ça doit faire 3 millions, toutes ces boîtes-là, de chiffre d'affaires. Mais c'est que du conseil, donc il faut aller chercher les gens, il faut aller trouver de nouveaux clients, et c'est non-stop, non-stop. Et dès que tu
C'est
as
de
un fou, bah.
l'intelligence que tu vends, quoi. C'est pas des logiciels que tu vends à scale.
Voilà, exactement, donc en fait c'est fatigant parce que. Mais ça reste open source, tu vois, c'est pas une ESN ou une SS2I là qui vendent de la chair à pâté, tu vois. On fait de l'orfèvrerie, on fait de la très haute qualité. Donc c'est très difficile. À toi, quand il y a un client, ça va pas, tu as un vrai problème financier. Et le problème financier, bah, il faut bien payer les gens à la fin du mois. Donc tu vois, et c'est à toi de te démerder. Enfin, c'est à moi de me démerder. Il n'y a personne qui va venir m'aider. J'ai pas envie d'investisseur à qui je peux dire aide-nous, quoi. Donc
Yes,
voilà, donc cette partie-là, elle est qui est vraiment de petite PME de logiciels, ouais, c'est vraiment vraiment fatigant. Et j'ai personne pour m'aider, quoi.
t'as combien de personnes au niveau de Videolabs, au niveau de ta boîte, ta startup?
Trentaine.
Ah ouais, ok, ça en fait.
C'est un peu compliqué, mais en fait, il y a plusieurs structures juridiques, il y a Videolabs, mais en grosso modo, c'est 30 personnes. Ouais.
Mais je veux dire, en tout cas, les gens qui sont pas des prestataires, des gens. Qui sont sous ta responsabilité directement, qui bossent pour toi en tant qu'employé.
Ouais, mais même, c'est difficile à définir. Tu sais, t'as des gens, ils sont en CDI, t'as des gens, ils sont pas en CDI parce qu'ils sont à l'étranger, mais en fait, c'est comme s'ils étaient en CDI. T'as des gens qui sont autour de l'association, t'as des stagiaires longs.
Yes.
C'est pas difficile d'avoir un vrai nombre, mais c'est une trentaine de personnes.
Parfait. Tu as des regrets?
Non, ça sert à rien,
Pro,
les
hein. Je
regrets.
reste, je pars sur la partie pro, bien sûr.
Non, non, il y a plein de gâchis autour de Videoland. C'est-à-dire que bah, il y avait un YouTube avant YouTube, il y avait un Twitch avant Twitch, il y avait plein de solutions et elles n'ont pas été prises au sérieux. En tout cas, elles n'ont jamais été développées. Donc là, il y a un vrai sujet autour de Videoland qui est un peu des choses un peu dommages. Mais et puis sur Videolabs, ouais, j'aurais peut-être dû faire un peu différemment. Bon, enfin, pour moi, faut apprendre, quoi. Il n'y a pas d'autre façon que de faire. Donc, regretter, c'est pas bien, parce qu'après, ça t'empêche de vivre. Donc, j'ai pas
Yes.
beaucoup de regrets.
Tu penses qu'il y a encore des positions à prendre
Forcément.
avec VLC par rapport à ce que
Avec
par exemple
VLC, je
YouTube
sais.
fait, tu vois?
Ouais, mais regarde YouTube maintenant, putain, il y a de la pub partout, c'est infernal. C'est que
Ben
des petites
justement,
vidéos.
VLC qui reste un truc quelque part,
C'est
entre guillemets, pour le peuple.
n'importe quoi. Ouais, et puis surtout la vidéo, elle est. Ah, putain, c'est des vidéos de plus en plus clickbait. C'est des vidéos de 10 minutes, alors qu'en fait, elles devraient durer 30 secondes. T'as quelques mecs qui font de la qualité, mais même pour eux, enfin, maintenant, ils ont de la pub dans le flux.
Ouais, mais imagine un truc open source, un petit peu. Enfin, Google, c'est Google a un modèle économique, bien évidemment, mais quelque part, quand tu regardes dans sa façon de s'exécuter, c'est plus un moteur de réponse qu'un moteur de recherche. C'est-à-dire, il est quand même axé plus sur l'utilisateur, l'expérience de l'utilisateur, que d'autres modèles où ben, tout ce qui intéresse, c'est juste de vendre de la pub, tu vois. Et c'est un petit peu ça, un peu le modèle
Ouais, mais en
de
fait, le
VLC
problème,
qui est
c'est que les
très
gens, ils veulent.
produit.
Ouais, mais c'est très difficile parce qu'en fait, c'est des questions de droit de contenu. D'ailleurs, tu vois, t'as Netflix, t'as Disney+, enfin, tu vois, c'est des mastodontes de contenu et l'argent, il est en centaines de millions, voire en milliards. Donc, on n'est pas du tout dans la même échelle. Donc, c'est très difficile d'arriver avec un modèle qui vient compliquer. YouTube, ils sont passés dans le casual, quoi, voire l'hyper-casual, avec des gens qui sont des semi-pros, quoi. En dessous, bah, finalement, tu as des gens un peu. Tu as du TikTok, quoi. Les gens, ils font des micro-trucs, 10 secondes, 30 secondes. Et puis après, tu as des trucs un peu longs à la Netflix. Mais tu vois, c'est que des boîtes, des grosses boîtes, soit américaines, soit chinoises. Il y a énormément d'argent qui ont été injectés. Et c'est des boîtes qui, pendant très longtemps, n'ont pas gagné d'argent. Donc, ouais, c'est des modèles qui sont difficiles à aller challenger. Ouais. Mais je pense qu'il y a des trucs à faire. Et surtout, je pense que là, ça devient de plus en plus en chiant, c'est que tu as besoin d'avoir Netflix, YouTube, Hulu, Disney+, Amazon Prime. Donc, ça, tu commences à devoir jongler entre les trucs.
Yes. Mais toi, qu'est-ce que tu penses justement de ça, de cette domination de ces gros acteurs versus des marques, si on prend VLC, franchement, ça, c'est quelque part le français, c'est l'un des plus gros, en tout cas en termes d'application, c'est le plus gros quoi pour en France, quoi, je pense, VLC, en termes de
Ouais,
téléchargement.
mais non, mais en fait, il faut plutôt comparer Dailymotion à YouTube. Et tu vois, Dailymotion, on n'en a
Ouais,
rien
mais
fait.
Dailymotion, c'est.
Quoi, c'était le même truc, quoi.
En plus, avant
C'est
YouTube,
complètement
hein,
différent.
Dailymotion, c'était avant YouTube. Et puis.
Bon, je pense que
Qu'est-ce
leur.
que tu penses de ça, le fait. Est-ce que tu penses à un combat perdu d'avance, le fait d'avoir des fleurons nationaux pour, entre guillemets, aller chercher une sorte d'indépendance
Non, c'est pas perdu d'avance, non, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, hein. Ah, tu sais, les boîtes tech mondiales, en B2C, il n'y en a pas beaucoup,
Et même celles qui existent, elles sont généralement financées par des fonds américains ou
ça,
canadiens.
limite, ouais. Ouais, si, si, mais c'est pas le truc le plus grave. Le plus embêtant, c'est que c'est difficile de faire des vrais produits.
Parce que l'intelligence, il y a, la connaissance, il y a, la preuve, si tu regardes dans ces grosses boîtes américaines, ben, tu as toujours un Frenchie quelque part qui pilote le truc, quoi, tu vois. C'est ça le truc.
Ouais, mais c'est une question. Il faut avoir de l'argent, d'investissement, il faut avoir une vraie fibre produit, s'intéresser à l'utilisateur, tu vois. Et ça, on est pas très bon là-dessus en France.
Yes. Du coup, est-ce que tu aurais une fierté à nous partager?
Bah non, je crois, de toute façon, c'est vrai que c'est un peu. Ah, VLC, c'est dingue comme histoire. Le nombre de téléchargements qui se chiffre en milliards, le nombre d'utilisateurs encore aujourd'hui qui se chiffre en centaines de millions, ouais, ça c'est assez dingue. Donc je suis assez fier de le faire, surtout avec des équipes de ouais, 5-10 personnes, tu vois. C'est vraiment tout petit, petit. Où tu es capable d'avoir un site web qui a l'air pas ridicule parmi à côté de sites web de grandes boîtes qui coûtent des fortunes, où tu es capable de répondre à diffuser dans l'ensemble de la planète. Un logiciel qui est traduit dans plein de versions, qui tourne sur tellement d'OS que tu peux même pas tous les compter. Enfin, tu vois, VLC, la dernière version de VLC, elle marche toujours sous Windows XP. Les derniers
Ah
softs de Microsoft,
ouais.
ils marchent même pas sous Windows 8, quoi. Enfin, tu te rends compte?
Windows
C'est-à-dire que tu te rends compte
XP.
que nous, on fait plus d'efforts pour les plateformes Microsoft que Microsoft. VLC, ça tourne sur plus de plateformes que Chrome. Enfin, VLC, ça tourne sur Apple TV, ça tourne Apple TV. Enfin, Chrome, ça tourne pas sur Apple TV. Ah, tu vois, plein de trucs comme ça qui fait que c'est quand même assez incroyable ce qu'on a fait avec VLC. Et on fait plus auprès des pour les utilisateurs que des boîtes, même des grosses boîtes, voire même des grosses GAFAM, qui veulent même pas. Voilà. Donc là, ouais, je suis assez fier de ce qu'on fait. Après, c'est vrai que bah, c'est un modèle qui est compliqué parce que les gens font de plus en plus de streaming vidéo. C'est quoi la place de VLC dans le streaming vidéo? Ouais, c'est difficile. Et surtout parce que la difficulté, c'est pas la tech. La tech de VLC, elle est très bien. Le problème, c'est le contenu. Où est-ce qu'on va récupérer du contenu? Toi, j'ai pas 10 milliards à investir pour faire un concurrent Netflix.
Mais t'as de la ressource
Parce que la
humaine.
difficulté technique de Netflix, c'est pas de la tech, hein, c'est la création de séries.
Ouais, et pour ça, ils ont des fonds, mais toi, tu as des bénévoles. Est-ce qu'il n'y aurait pas je sais pas, moi, je me dis qu'il y a quelque chose quand même à creuser, toujours en gardant ce modèle d'indépendance, parce que c'est ça qui fait aussi la
Ouais, mais
force de
non.
VLC. S'il faut
Ouais,
faire
mais.
entrer des fonds, je pense que c'est plus la même histoire, c'est trop compliqué. Un VLC
Regarde.
aujourd'hui, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui peut. S'il faut créer un VLC aujourd'hui, est-ce que c'est possible encore aujourd'hui?
Non.
Pourquoi?
Mais regarde, Netflix, chaque série, elle coûte 10 millions. Chaque série. Tu vois, c'est des chiffres. Ah, tu vois, ils en sortent ils en sortent des palanquées. Donc, les investissements pour fabriquer du contenu, ils sont monstrueux.
Yes. T'aurais des bouquins à nous recommander? Deux, trois bouquins?
Ouais, The Design of Everyday Things, qui parle justement du design des choses du quotidien. Ça, c'est intéressant. J'aurais tendance à dire start with why, de vraiment te faire réfléchir à pourquoi on fait les choses. Donc ça, c'est un peu pour business. Et puis en non-business, le nom du vent de Patrick Rothfuss, qui est un bouquin absolument génial.
Yes, on va mettre tout ça en description. Start with five de Simon Sinek. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose de d'impérissable, une bouteille à la mer?
Ouais, moi je pense qu'on peut faire encore plein de trucs. Ce que j'aime bien en ce moment, c'est avec en France, c'est la French Tech, quoi. C'est que après des années où c'était très dur de faire des startups, maintenant là tout le monde est encouragé à faire des startups. Donc ça, c'est vraiment sympa. Bah, vous sous-estimez pas, vous pouvez faire des trucs super cool. Les gens, ils ont encore un peu trop peur de l'échec, ils ont un peu trop peur de lancer des trucs. Alors que bah, tu vois, VLC, c'est un truc qui a été fait par des étudiants. Qui n'était pas plus intelligent que la moyenne des étudiants. Et
Yes.
montrer qu'en fait, juste avec un groupe d'étudiants, tu peux faire un truc mondial et incroyable. Et ça, vraiment,
Yes.
j'aime bien.
C'est vrai qu'on n'a pas creusé
Mais il
sur
faut.
l'écosystème French Tech. Moi, je me demande, est-ce que c'est j'ai pas la sensation que tu es proche, tu es plus le mec qui va faire cavalier seul et tout. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Est-ce que tu as une
En
relation
fait, les
justement
gens de
avec
la
cet
French Tech, ils
écosystème?
comprennent pas ce que je dis, ou ils veulent pas comprendre, j'en sais rien. Mais moi, ce que je dis, c'est que la plupart des boîtes de la French Tech, c'est pas de la tech. C'est dommage, hein,
Ah, c'est que c'est chaud ce que tu dis là quand même, franchement là
mais
tu
c'est vrai.
vois.
Mais c'est vrai. Que ce soit chaud ou pas, ça change rien, c'est vrai. Par contre, c'est des belles boîtes. C'est pas le problème. C'est des superbes boîtes. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font des boîtes du 21e siècle. Donc, c'est des boîtes où ils mettent la tech au cœur. Mais c'est pas des boîtes tech. Uber,
J'ai
c'est pas une
parlé
boîte.
de sans filtre au début de l'interview, c'est vraiment sans filtre là.
Mais c'est vrai, Uber, c'est pas une boîte tech, quoi. Uber, c'est une boîte de taxi. C'est une boîte de taxi qui a fait un moteur tech de mise en relation. C'est comme ça que doit être une boîte de taxi au XXIe siècle. Et d'ailleurs, quand tu regardes les métriques financières, c'est une boîte de taxi. Quand tu regardes
Il faut que tu
WeWork,
nous expliques ça. Donc, tout le moteur qu'il y a derrière, pour toi, ça, c'est pas de la tech.
mais c'est une sous-sous-partie du business, c'est 2% de leur coût business. Et tu vas voir en France, et tu vas regarder Pefi, Talane, Conto, etc. Tu vois, la moitié des gens qui bossent là-bas, c'est des gens qui font customer success. C'est des sales, c'est des gens qui vont aux clients.
C'est
C'est
quoi une boîte
normal.
tech? C'est quoi une boîte tech?
Ah, voilà, c'est une bonne question. C'est quoi une bad tech? Et là, tu vas te rendre compte que des boîtes qui font vraiment des tech. Donc, faire de la tech, c'est de la tech. C'est d'ailleurs la définition quand tu prends le crédit impôt recherche, c'est de faire quelque chose dans lequel tu n'es pas sûr en démarrant que tu vas y arriver. D'accord? Donc, c'est ça la définition. C'est-à-dire que tu arrives, tu as si tu prends l'état de l'art, tu ne peux pas savoir ce que tu vas faire. Donc, l'exemple Shadow, au moment où ils ont commencé, c'était de la tech, quoi. T'écris du C, t'écris du C++, tu te poses la question, t'as pas la solution. Aujourd'hui, on se met tous les deux et on veut faire un concurrent à Conto ou à n'importe quelle autre startup. Je te promets, en une semaine, on a le plan, on a la roadmap, on sait comment on va coder. On peut même te dire comment tu vas faire les features. Il n'y a aucun verrou technologique à lever. Uber, il y a zéro verrou technologique. Et regarde, WeWork, c'est encore mieux. WeWork, qui te fait, ouais, tu comprends, là, là, on est une boîte tech. Non, t'es pas une boîte tech. D'ailleurs, tu regardes tes statements financiers, c'est que du CapEx. Donc, par définition, c'est exactement, t'es une boîte d'immobilier, t'es une boîte d'investissement immobilier, qui le fait moins mal parce qu'elle gère la tech. Mais tu n'es pas une boîte tech. Et d'ailleurs, c'est super marrant, là, tu sais, ils parlent de fintech, insurance tech. Non, en fait, vous êtes des insurance et vous utilisez de la tech. Mais vous faites pas de la tech, quoi. Alors, qu'est-ce c'est quoi des boîtes tech? En France, un des bons exemples, c'est Preligens, EarthCube. Ils font des moteurs de machine learning pour du NLP. Bah, ça, c'est un truc, bah, ouais, c'est velu, quoi. Tu as des boîtes,
Tu connais
notamment en
Hugging
bio.
Face?
Ouais, bah,
Hugging
par
Face.
exemple. Hugging Face, Preligens, qui sont deux boîtes de machine learning en France. Les deux fonctionnent très bien.
Plateforme.sh aussi de.
Plateforme.sh, bon, c'est un peu différent, mais bon, là c'était plus dans le boutillage, mais c'est de la vraie. c'est de la vraie, du vrai outillage tech, quoi, pour des techs. Pour monter un cloud, tu as des, voilà, tu as des clever cloud. En bio, on a pas mal de trucs en France en bio. Un truc qui s'appelle DNA Script, on a eu Insect. Voilà. Donc ça, c'est des trucs, quand tu démarres ta boîte, tu as un verrou technologique. Tu peux avoir une bonne idée de comment tu vas faire, mais tu n'es pas sûr. Une boîte qui est une énième marketplace, une énième, j'ai prends un secteur business de la vie, de l'assurance, de la banque, de l'éducation, de, on sait rien, de la santé, du boulot, et je vais simplifier les process, enlever les intermédiaires et automatiser avec de la tech. Ce ne sont pas de la tech, c'est-à-dire que c'est un problème business, c'est un problème super intéressant, mais ce n'est pas des boîtes tech. Et en fait, ils sont vexés parce que, mais non, on fait de la tech. Non, tu ne fais pas de la tech, tu me fais une API REST, c'est pas de la tech. Ouais, c'est mieux que de bosser chez AXA. 1 milliard de fois, on est d'accord. On va jamais bosser chez AXA. Ouais.
On n'a rien contre pas de débat. AXA. On les embrasse.
Mais ouais, mais on les embrasse. Mais bon, tu vois, c'est des mecs qui sont incapables de bouger, quoi. Et la seule façon dont ils sont capables de faire la moindre innovation, c'est d'acheter des boîtes. Enfin, des boîtes typiques du 440. Donc, c'est super de faire ces boîtes et je suis ravi. Et c'est ce que je t'ai dit au début. Moi, je trouve que c'est génial, la French Tech et toutes ces boîtes-là. Parce que ça aide les gens à faire des startups et à bosser dans des petites boîtes ou des boîtes qui fonctionnent différemment, où on challenge le statu quo. Et je suis ravi que la plupart des gens qui sortent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingé, d'écoles d'informatique, ils ont envie d'aller bosser dans des startups. C'est trop bien, c'est comme ça qu'on change le monde. Malgré tout, ce sont des innovations de business model, ce sont des simplifications grâce à la tech, mais ce ne sont pas des boîtes tech. Et voilà. Et donc, quand il dit ça, il se vexe. Mais non, on fait de la tech. Bon, dégage. Voilà. Et donc, ça, c'est le débat que j'ai à chaque fois. Et alors, maintenant, ça s'entend de mieux en mieux. Ouais. Parce que maintenant, en fait, il y a une certaine maturité. Donc, les gens, ils comprennent. Ils font, ah oui, en fait, JB, c'est ça qu'il disait, etc. Mais au début, à chaque fois, genre... et je le sais parce que j'ai encadré énormément de startups. J'ai été longtemps à Station F. J'ai fait des audits de plein de startups. Et franchement, il y en a plein. C'est... Ouais, c'est pas incroyable, mais ça veut pas dire que ce sont des mauvaises boîtes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas nécessité d'avoir à chaque fois de faire du SpaceX, quoi.
Tu n'es pas en train de mettre en opposition, et c'est même pas un jugement de valeur. Donc, c'est assez intéressant lorsque tu développes. C'est vrai que de prime abord, lorsque tu lâches, que c'est pas des boîtes tech, c'est un peu chaud. Mais là, ça s'entend. Dans ton explication, c'est plutôt. Ouais, c'est clair, et c'est même pas une critique, c'est un constat, et puis en soi, c'est pas une mauvaise chose.
C'est un constat. Ce qu'ils font, c'est cool, c'est des innovations de business.
Utiliser la techno pour peut-être redéfinir, je sais pas.
Tellement je veux avoir 30 Alan et moins d'AXA. Tellement je veux avoir des contos et je veux plus avoir de la Société Générale ou de la BNP. Tellement je veux voir Péfit et pas un comptable qui te fait. Fait des fiches de paie tous les 4 du mois et il faut les vérifier parce qu'en fait il fait des erreurs tout le temps. Et évidemment, c'est génial, c'est ça que je veux. C'est pas, il n'y a pas de débat. Mais on n'est pas sur des boîtes qui révolutionnent la planète et on n'est pas sur de la tech compliquée, quoi.
Ça reviendrait plus.
Ouais, moi je voudrais des boîtes qui me fabriquent des mini réacteurs nucléaires qu'on puisse mettre sur un camion. Tu vois, dans un conteneur, pour qu'on puisse aller apporter de l'énergie à des endroits où on a besoin, plutôt que de faire tourner un truc à base de fuel. Tu vois, c'est de la tech que j'aimerais bien que les Français aient faire, alors qu'on a une compétence nucléaire importante. Yes. Aller travailler sur la capture carbone, voilà, ça, c'est de la tech. En vidéo, tu vois, tout ce qui est encodage vidéo, c'est un truc hyper mathématique, un vrai sujet, c'est compliqué. Computer vision, machine learning, ok, là on passe dans des trucs vraiment velus que tu peux pas inventer, tu peux pas, tu vois, c'est pas n'importe quel premier venu qui arrive, qui sort d'une école de commerce, qui prend 3 développeurs d'Epitech et 2 de Supinfo et qui en 3 semaines a un POC, quoi. C'est très bien et ce qu'ils font est utile, mais c'est pas, il y a trop de focus là-dessus et il y a pas assez de focus sur ce que en fait les gens appellent de la deep tech.
Si je dois redéfinir ou si je dois reformuler l'innovation, la révolution, passera par des boîtes qui font de la tech. Ce n'est pas une mise en opposition avec des boîtes qui utilisent la tech pour révolutionner des segments de métiers qui sont mal desservis aujourd'hui.
C'est ça. Et notamment, pour les avoir des vrais breaking change, il faut qu'il y ait de la vraie tech. Yes. En particulier parce qu'il faut que ce soit difficile à reproduire. Aujourd'hui, si je lève 100 millions, je te reproduis un Conto. Si je lève 100 millions, je te reproduis un Alan. Techniquement, je n'ai pas de problème. Est-ce qu'après, ça va être des boîtes qui vont être successful au niveau de nos business? C'est un autre sujet. Ouais. Mais là, on n'est pas du tout sur ça. Hein.
Ouais. Capacité à avoir une grosse team sales ou customer success derrière, aussi de travailler sur la marque, le réseau, tout dépend aussi. Les licences aussi qui ne dépendent pas forcément de la techno. Est-ce que le régulateur, il va forcément te donner les licences ou ton ex-compte?
Tout à fait. Mais de base, ce qu'ils font, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas... Ça va améliorer un segment de marché, mais c'est pas un Google, c'est pas un SpaceX, c'est pas un Apple, c'est pas un Tesla, qui sont des changements majeurs.
Yes. Jean-Baptiste, on te contacte où?
Sur Internet. Non, c'est pas ça la question.
Parce que t'es pas sur... t'as dit que t'es pas sur... que t'as disparu des réseaux sociaux. Sur LinkedIn, bien évidemment.
Ouais, sur les LinkedIn, sur mon site web, les gens, tu tapes JB, VLC, les gens m'envoient des mails.
Yes.
Les informations ne sont pas vraiment privées.
Ah, nice. C'est noté. On va mettre ton LinkedIn en description. Jean-Baptiste, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard?
En fait, je vais te répondre différemment. Moi, quand j'étais petit, je voulais être ingénieur parce que être ingénieur, c'était vraiment le mec qui fabriquait des trucs. Et quand j'étais... Moi, j'étais scout. Hein. Mmh. Et c'était vraiment cette habitude de fabriquer les trucs toi-même. Et quand j'étais tout petit, évidemment, ça a commencé avec des cabanes, etc. Mais moi, j'ai fait pas mal de travaux manuels, de mecs qui se débrouillaient. D'aller... Bon, aujourd'hui, j'en fais quasiment plus. J'ai pas beaucoup de temps. Mais vraiment, d'aller chercher des solutions soi-même, quoi. Se débrouiller, tu vois, des merdons zizich, quoi. Tu vas les regarder, ah merde, il n'y a pas ça. Et c'est ça que j'aime bien dans des petites boîtes. Et puis même sur VLC, quand je raconte aux gens ce qu'on fait avec VLC, avec l'équipe, les mecs, ils ont les yeux comme ça. Quoi. Attends, mais vous supportez, vous êtes 10 et vous supportez plus d'OS que Microsoft ou Apple? Ouais. Et vous avez 500 millions d'utilisateurs? Ouais. Vous n'avez pas d'équipe support? Non. Et vous réussissez? Voilà. Et quand tu regardes, en fait, tu te rends compte qu'on est hyper professionnel. Mais en fait, on s'est débrouillé, on n'avait pas le choix, donc on y allait, on a mis dans le cambouis. Tu vois, moi, j'ai écrit du C, de l'assembleur, du C++, je fais de l'administration de machines, j'ai fait du réseau. Et voilà, je me suis fait attaquer par les avocats, bah, je me suis tapé des traités de propriété intellectuelle pour les répondre, pas pour regarder. En fait, c'est vraiment ne pas attendre qu'on te prémâche la solution. C'est le mec débrouillard, il y va, quoi.
Nice. Puis,
bah, c'est quoi le risque? Et en fait, moi, je passe ma vie à me dire, c'est quoi le risque? C'est quoi mon risque? Bon, bah, au pire, toutes mes boîtes, elles se crachent. Bon, bah, au pire, toutes mes boîtes, elles se crachent. Tu vois, je vais te dire, bon, bah, ouais, ok. C'est la vie, tu vois? Et donc, c'est vraiment cet état d'esprit qui est... c'est ça, être un mec débrouillant.
Yes. Jean-Baptiste, je te remercie pour ton temps. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Et je te remercie aussi.
Merci de m'avoir invité.
Bien, c'est normal. Je te remercie, toi, et puis tu vas le transmettre à ta team de VLC, de l'association. Je sais que pour vous, vous recevez peut-être des milliers de merci tout le temps, mais pour moi, pour quelqu'un comme moi qui vient.
Très, très peu. Très, très peu.
D'un endroit perdu, comme ça, tu vois, du Cameroun et tout. On n'avait aucune alternative. Pour moi, VLC, ça. Pour moi, c'est une révolution. Ça nous a permis d'accéder à plein de trucs que, de base, c'était impossible d'y accéder dans les années 2000. Merci pour ça. Merci pour VLC, en tout cas.
De rien.
À très vite.
Merci. Ciao.